Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être à l'écoute des programmes de VOA Afrique. Yacouba Ouédraogo de retour avec vous pour ce bulletin d'information. Il est 15h ici à Washington, 19h en temps universel en République démocratique du Congo. Dans une lettre datée de samedi, le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondé, demande aux agents de la Direction générale des migrations d'interdire à 3 hommes de sortir de Kinshasa et du territoire congolais. Il s'agit des ministres des Finances Nicolas Kazadi, du Développement rural François Rubota et le prédécesseur de ce dernier, Guy Mikoulou. Selon une source proche de Nicolas Kazadi, celui-ci s'est effectivement vu interdit samedi de quitter Kinshasa pour la France, où le président de la RDC, Félix Tshisekedi, est en visite officielle ce lundi et demain mardi. Lors d'un briefing tenu le 24 avril, M. Kazadi avait été interrogé sur des allégations de surfacturation dans un contrat de fourrage et station de traitement d'eau à travers le pays et dans un autre dossier concernant l'installation de la Pandère à Kinshasa. Il s'était défendu de toute infraction. Au Gabon, les assises nationales du dialogue inclusif ont pris fin. Le document détaillé comporte plusieurs recommandations dont le maintien de la durée de la transition, l'éligibilité confirmée du président général Brice Clotaire Oligui Nguema et l'adoption par la commission politique d'un régime présidentiel au Gabon. La durée de la transition reste maintenue à 2 ans avec une proposition de 12 mois supplémentaires en cas de force majeure. Le rapport des travaux sera remis au chef de l'État ce mardi 30 avril. Les autorités burkinabè disent rejeter les accusations infondées selon elles sur l'exécution le 25 février d'au moins 223 civils par l'armée dans le nord du pays. Porté par Human Rights Watch, le communiqué du porte-parole du gouvernement Jean-Emmanuel Ouédraogo ajoute que les tueries de Nodin et Soro ont donné lieu à l'ouverture d'une enquête judiciaire. Le Burkina Faso a suspendu pour 2 semaines la BBC et la VOA pour avoir relayé le rapport de Human Rights Watch. La Voix de l'Amérique dit s'inquiéter des restrictions imposées par le gouvernement du Burkina Faso sur son contenu. La VOA reste fidèle à ses reportages sur le Burkina Faso et entend continuer à couvrir pleinement et équitablement les événements dans ce pays, a déclaré John Lipman, directeur par intérim de la VOA. Il a ajouté que la Voix de l'Amérique adhère strictement au principe d'un journalisme précis, équilibré et complet.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
La Maison-Blanche appelle les manifestants de soutien à Gaza à rester pacifiques. Ces manifestations se sont multipliées ces derniers jours dans les universités américaines, partie la semaine dernière de l'université new-yorkaise Columbia. Ce nouvel épisode du mouvement de protestation contre la guerre que mène Israël dans la bande de Gaza s'est étendu à d'autres campus américains. Ce week-end, environ 275 personnes ont été interpellées sur les campus d'université Jill Stein. Candidate du Green Party à l'élection présidentielle de novembre a aussi été interpellée sur le campus de la Washington University à Saint-Louis dans le Missouri. Les étudiants dénoncent le soutien militaire des États-Unis à son allié israélien et réclament à leur université de couper toute relation avec des entreprises en lien avec Israël. La GT en construction à Gaza devrait permettre d'ici 2 à 3 semaines d'acheminer davantage d'aide humanitaire dans le territoire palestinien bombardé et assiégé par Israël. C'est ce qu'indique la Maison-Blanche. Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale soutient que rien ne peut remplacer les routes terrestres et les camions qui entrent à Gaza, déclare donc John Kirby, face au retard et blocage d'Israël concernant la livraison d'aide humanitaire par voie terrestre dans la bande de Gaza frappée par un désastre humanitaire. Le président Joe Biden avait annoncé début mars la construction de ce port artificiel. La Russie a revendiqué ce dimanche la prise d'un nouveau village sur le front est, Novo-Bakhmutiva. Les Russes ont avancé rapidement dans cette zone au cours de la semaine écoulée face à une armée ukrainienne sur la défensive. La chaîne Telegram Deep State, proche de l'armée ukrainienne, a blâmé le commandement d'une unité déployée sur place, la 115e brigade motorisée, pour l'effondrement des défenses dans toute la région. Le commandant en chef de l'armée ukrainienne, Oleksandr Sriksky, a affirmé que la situation sur le front s'est détériorée, les troupes russes ayant remporté des succès tactiques dans plusieurs zones, selon lui. Un mot de sport, le défenseur international ivoirien de l'AS Rome, Evan Ndika, a fait son retour en compétition à l'occasion de la 34e journée du championnat d'Italie, 2 semaines après un malaise en plein match. Ndika a été titularisé par Daniel Dere aussi pour affronter le Napoli, champion d'Italie 2023, dans son stade Santiago. Stade Diego Armando Maradona, le défenseur de 24 ans, a connu une grande frayeur le 14 avril dernier lorsqu'il s'était effondré en se plaignant d'une douleur au niveau du cœur à la 70e minute du match contre l'Udinese. Il avait réussi en début de semaine le feu vert médical pour reprendre une activité physique. C'est tout pour ce bulletin d'information. Présentation Yacouba Ouédraogo. Merci à vous de l'avoir suivi. Le prochain c'est dans 55 minutes. À tout de suite.
Et Passion,
vérité et doctrine,
le dialogue des religions
sur la voie de l'Amérique.
Bonsoir madame, bonsoir messieurs, bienvenue dans ce dialogue des religions. Eric Manirakiza avec vous, Michel Claire-Joseph assure la mise en onde. Alors que le Rwanda continue de se reconstruire après le génocide de 1994 commis contre les Tutsis, cette édition de Dialogue des religions explore le rôle complexe de l'Église dans la réconciliation et la reconstruction sociale du pays. L'idéologie du génocide enracinée dans les théories racistes du 19e siècle a influencé les missionnaires dans leurs actions envers les autochtones, jetant une lumière sombre sur le passé de l'Église. Pour en parler, nous sommes accompagnés d'un expert en justice transitionnelle. C'est le journaliste Athanase Karayenga, consultant en communication. Bonsoir Athanase.
Bonsoir Eric, bonsoir, merci pour l'invitation.
Vous êtes très familier avec l'histoire du Rwanda et du Burundi. Dans nos éditions précédentes, nous avons parlé du rôle des missionnaires dans le génocide rwandais. On peut se poser la question de savoir quel rôle ces missionnaires ou l'Église catholique ont-ils joué après le génocide dans la réconciliation et la reconstruction sociale du pays, notamment en termes de responsabilité morale et de justice. Athanase.
Il est très difficile d'affirmer avec certitude que l'Église, en tant qu'institution, ait eu une attitude particulièrement dynamique dans la reconstruction du Rwanda après le génocide. En tout cas, dans l'aveu de complicité de l'Église, d'une partie de l'Église catholique avec le gouvernement qui organisait le génocide, on se souvient que, par exemple, à titre d'exemple, l'évêque de Kigali était membre du parti MRND. Beaucoup de Tutsis ont été massacrés dans les églises. On ne peut pas dire que c'est nécessairement des prêtres qui ont orienté la machette ou les tueurs vers cette église. Mais en tout cas, une évidence s'impose. L'Église était très gênée, l'Église catholique est très gênée, pour plusieurs raisons, mais en tout cas pour une raison évidente. Beaucoup de prêtres rwandais ont été complices de ce génocide. Quelques prêtres rwandais ont été jugés, mais d'une façon générale, l'Église catholique est gênée et est plutôt cantonnée dans une sorte de contrition, de demande de pardon, et très peu engagée dans un processus de justice pour les complices, mais aussi pour les acteurs du génocide quand ils étaient prêtres. Ce qui fait que l'opinion générale, me semble-t-il, elle est mitigée. À titre personnel, il y a certainement des prêtres et des missionnaires qui ont regretté ce qui s'est passé. Mais à titre personnel, il y a aussi beaucoup qui n'ont rien regretté. Beaucoup de Rwandais se souviennent du rôle absolument tragique de Monseigneur Perraudin, qui a littéralement encouragé la naissance et l'émergence du Hutu Power et qui a débouché sur le génocide. En résumé, j'ai le sentiment que l'Église catholique au Rwanda, même d'ailleurs au Burundi, c'est presque pareil, elle est gênée, elle sait qu'elle a eu une attitude tout à fait détestable dans la montée du génocide et qu'elle ne s'est pas suffisamment battue contre l'idéologie du génocide. Il y a eu des prêtres victimes du génocide. J'ai un ami, l'abbé Joseph, qui a été traîné entre Gikongoro et une église proche, et qui a été traîné par terre par une horde de tueurs. Il était Tutsi, il a été tué de cette manière absolument atroce. Donc il y a eu des prêtres rwandais victimes, mais il y a aussi des prêtres rwandais présumés coupables de complicité avec les génocidaires. La position de l'église rwandaise, elle est vraiment très mitigée, elle est très décevante et nous aurions peut-être, en tant que citoyens africains, mais aussi rwandais, mais aussi burundais, apprécié une attitude beaucoup plus dynamique, beaucoup plus affirmée, beaucoup plus radicale contre l'idéologie du génocide. Et c'est pas ça que nous avons vu. C'est une église tiède, mi-figue, mi-raisin, et c'est peut-être ça la grande déception.
Mais le gouvernement de l'époque de Habyalimana était réputé très catholique.
Il était très catholique, il était très croyant, c'était tout à fait son droit, mais il avait surtout réussi à s'entourer de la complicité de l'Église, des prélats rwandais, mais aussi des prélats belges. Habyarimana avait beaucoup d'échos, et j'ai mentionné une fois la rencontre rencontre historique que j'ai eue avec Jean-Paul Arroy. Et Jean-Paul Arroy me disait qu'il utilisait toute sa notoriété, toute son autorité d'ancien gouverneur général du Rwanda-Urundi, mais aussi de professeur à l'université ULB, mais aussi un homme très écouté dans les milieux politiques, pour faire du lobbying en faveur du Rwanda. Et Jean-Paul Arroy me disait qu'il aurait eu envie de faire la même chose pour le Burundi. Mais en tout cas, pour le Rwanda, il était extrêmement engagé. Et je sais qu'il avait aussi beaucoup, beaucoup de contacts dans les milieux religieux, dans les milieux de l'Église. Donc oui, Abdiarimana était chrétien, était catholique, était fervent. Et son épouse aussi, je pense. Tout l'entourage était très fervent, très catholique. Malheureusement, ils se sont fait dépasser, débordés par l'idéologie du génocide. Et les missionnaires n'ont pas eu présent d'esprit pour détecter que l'idéologie de l'extermination des Tutsis, c'était la même, comme je le disais plus tôt, que celle qui a provoqué l'abominable génocide des Juifs, mais aussi des Arméniens, mais aussi la guerre entre Israël et le Hamas est en train de dégénérer dans une forme de génocide. Évidemment, le tribunal pénal international va pouvoir se prononcer là-dessus et, grâce à la plainte de l'Afrique du Sud. Mais en tout cas, l'Église catholique, pour revenir à elle, n'a pas vu à quel point le Rwanda était pris dans le piège d'une même idéologie européenne qui s'est implantée en Afrique, au Rwanda, au Burundi, à travers la colonisation et à travers l'évangélisation. Ce manque de lucidité, ce manque de courage de dénoncer les dérives de l'idéologie du génocide à temps met l'Église catholique dans une position vraiment misérable, si je peux me permettre.
En novembre 2016, l'évêque Philippe Rukamba, le président de la conférence épiscopale rwandaise, a demandé pardon pour tous les chrétiens qui ont été impliqués dans le génocide. C'est ça le côté mitigé dont vous parlez ?
Oui, parce que c'est très noble, c'est très louable d'avoir demandé pardon. Mais d'abord, l'Église catholique aurait joué un rôle plus allant, plus dynamique dans la prévention des crimes de génocide qui ont été commis après. Moi, j'ai eu le privilège d'accompagner le pape Jean-Paul II au Rwanda, en visite au Rwanda, mais aussi en Tanzanie, au Burundi, en Côte d'Ivoire, quand il inaugurait la basilique Notre-Dame à Yamoussoukro. Et je me souviens du discours absolument extraordinaire de Jean-Paul II au stade Amahoro à Kigali. À un moment donné, il s'est arrêté. Il a dit, vous avez, en s'adressant aux milliers de jeunes qui avaient organisé cette cérémonie au stade Amahoro, Jean-Paul II a eu le courage de dire, vous les Rwandais, vous avez un problème de discrimination, de racisme à l'égard d'une partie de la population. À ce moment-là, en principe, les discours du pape étaient relayés systématiquement et en intégralité par la radio nationale rwandaise. Eh bien, comme les journalistes avaient une copie d'avance, une copie du discours du pape Jean-Paul II, au moment où il allait prononcer cette phrase, ils ont coupé la liaison. Et donc, cette phrase n'a jamais été entendue par la population rwandaise. Mais nous qui étions au stade Amahoro, on l'a entendue. Et donc, le pape a eu le courage de dire oui, mais c'était en 1990, il a eu le courage de dire oui, au Rwanda, il y a un problème de racisme et d'extermination. Et donc, oui, l'Église avait toutes les informations, pouvait faire toutes les analyses, mais elle aurait dû normalement, moralement, s'impliquer beaucoup plus dans des campagnes de dénonciation au risque de basculement dans l'horreur du génocide. Elle ne l'a pas fait, elle le déplore, elle organise des séances de demande de pardon. Certains missionnaires ou certains prêtres ont été jugés, comme je l'ai dit, et même jugés en Europe, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, l'Église a failli, à mon avis, en devoir de lucidité et puis en devoir de lutte acharnée contre cette idéologie mortelle.
Écoutez le dialogue des religions. Nous poursuivons notre discussion dans un instant. Restez avec nous. À ta Athanase, comment l'idéologie du génocide enracinée dans les théories racistes du 19e siècle a-t-elle influencé les missionnaires dans leurs actions envers les populations autochtones?
D'une façon, j'allais dire une expression presque provocante en reprenant le propos de Hans Meyer qui disait que si nous voulons réussir la colonisation et l'évangélisation, de façon provocante, je dirais que, en fait, la colonisation administrative, pouvoir politique, et l'évangélisation sont les deux mamelles de la domination. Pour les gens de cette époque du 19e siècle, qui voulaient de toute façon justifier l'abominable domination qu'ils imposaient au peuple colonisé, il fallait qu'ils se donnent une bonne conscience. Et la bonne conscience, elle est d'abord militaire, elle est politique, elle est économique. Ça, c'est la domination, j'allais dire, de brute d'État. Et en même temps, les colons de cette époque et les églises catholiques notamment, en tout cas au Burundi, accompagnaient cette domination. Et il fallait changer le logiciel, la culture burundaise, l'imana, la théologie burundaise, l'anthropologie burundaise, la philosophie burundaise. Il fallait tout éliminer pour que, à la place, on change le logiciel, on mette un logiciel catholique, européen. Et pour ça, ils ont réussi. Et donc, pour moi, c'est effectivement la colonisation et l'évangélisation sont les deux mamelles de la domination. Les trois missionnaires qui ont rédigé le manifeste des Bahutus en 1957, ils n'ont pas eu beaucoup de scrupules, hein, parce que s'ils avaient consulté l'évangile, ils auraient trouvé peut-être une phrase qui dit « aimez-vous les uns les autres ». Ils n'auraient pas poussé à cette idéologie de la détestation, de la haine de l'autre, qu'il soit Hutu, toi ou Ganois ou ceci dans nos régions. Et donc, effectivement, il y a quelque chose d'absolument stupéfiant de voir que les missionnaires qui avaient les bonnes références évangéliques, qui avaient les bonnes références morales, qui avaient les bonnes références philosophiques, ont quand même accompagné la domination. Dans le cas du Burundi, par exemple, on le sait très bien, ils ont démoli, ils ont détruit la tradition du Muganuro. Le père Kanoneka, qui est le père supérieur de Bukele, a œuvré pour que le Muganuro, qui était la rencontre rituelle, annuelle, religieuse, mais politique, mais aussi agricole, qui était une sorte de pacte de renouvellement, le pacte entre le roi et la population, eh bien, c'est le père Kanoneka qui a détruit le Muganuro. Parce que, disait-il, le roi, il a pris des fonctions de grand prêtre, et donc ils étaient, je peux dire, les missionnaires étaient jaloux que le roi ait des puissances, un pouvoir religieux, moral, que eux n'avaient pas. Et donc, l'Église catholique a effectivement, chez nous, au Burundi, détruit les bases culturelles, notamment en détruisant le Muganuro. Et donc, l'Église catholique, même si, faut pas généraliser, parce que parmi les missionnaires, et je crois qu'il faut vraiment le dire, le redire, les missionnaires au niveau individuel, moi j'en suis témoin, on a reconnu des missionnaires extrêmement généreux, extrêmement dévoués, des missionnaires qui voulaient vraiment nous aider, nous, la jeunesse burundaise, en tout cas irlandaise, à accéder à la meilleure éducation. Moi, personnellement, j'ai passé des années absolument extraordinaires de formation au petit séminaire et au séminaire moyen de Mureke, de Bourassira. Nous avions une éducation de pointe en matière physique, la physique, la chimie, mais aussi les mathématiques, mais aussi de la littérature, mais aussi l'histoire. Nous avions vraiment la même éducation que les petits de Belges de la même époque. Et j'ai connu des professeurs extrêmement généreux, extrêmement attentifs, extrêmement soucieux de notre développement. Et donc, il ne faut pas jeter le bébé et l'eau du bain. Tous les missionnaires n'étaient pas monstrueux, loin de là. Je tiens absolument à rendre hommage à un prêtre missionnaire, un père blanc qui s'appelait le père Grodan, qui était belge, qui m'a permis de continuer la scolarité au niveau primaire, c'est une longue histoire, mais c'est grâce au père Grodan que j'ai pu continuer la scolarité. Et donc, il ne faut pas non plus tomber dans la simplification de l'histoire en disant ils étaient tous des monstres, ils étaient tous des accompagnateurs de la colonisation. Non, individuellement, on a connu vraiment des prêtres absolument extraordinaires, des prêtres dévoués, des prêtres qui nous ont soignés, qui nous ont appris, qui nous ont aimés, je peux dire qu'ils nous ont aimés vraiment comme des éducateurs de très haut niveau, et je crois qu'il faut aussi rétablir cette vérité-là. Tous les missionnaires n'ont pas joué le rôle macabre et tragique et criminel des trois missionnaires qui ont rédigé le manifeste de leur retour en 57. Et j'en profite pour dire aussi que dans les séminaires, dans les collèges, collège Saint-Esprit à Bujumbura, des enfants hutus aussi, on était sur les mêmes bancs, on a appris la même chose. Il n'y a pas eu de discrimination des hutus, il n'y a pas eu de privilège des enfants tutsis dans les séminaires, dans les écoles missionnaires. La seule discrimination qui a eu lieu, c'est dans le domaine de la scolarité, c'est à Astrida, l'actuelle Butare, qui était une école publique, mais confiée à la gestion des missionnaires, et où effectivement les Tutsis, les Ghanois étaient orientés vers la section politique, où les Tutsis burundais ou rwandais étaient orientés vers les sciences vétérinaires plutôt, où les Hutus étaient plutôt orientés vers la section agronomie. Et donc, on sent bien qu'à Astrida, l'administration, elle voulait accompagner cette cassure, cette fragmentation de la société. Mais au niveau des prêtres missionnaires, au niveau des séminaires du Collège Saint-Esprit, les jésuites, les pères blancs, je peux vraiment témoigner que beaucoup parmi eux ont été exceptionnels, ont été généreux. Ils avaient beaucoup d'ambition pour nous. Nous avons appris le grec, nous avons appris le latin, nous avons appris l'histoire de l'Europe. Nous étions plus européens pratiquement que beaucoup d'Européens quand je suis venu plus tard vivre en Europe. Et vraiment, c'est grâce à ces missionnaires à qui il faut rendre hommage. Il ne faut pas qu'on obscurcisse toute l'histoire, toute la tragédie de notre histoire, en oubliant de rendre hommage à ces esprits lumineux, au père Gredin, comme disait, mais aussi au père Tullier, au père Duchesne, au père
Morgan de Cosse, Néis de Bruxelles.
Oui, absolument, il y avait un prêtre d'Écosse qui nous apprenait l'humour anglais, qui nous apprenait l'anglais. Et Morgan, nous avions des professeurs italiens, nous avions des professeurs des Pays-Bas, des Néerlandais. Je peux vous dire que cette époque des années 50, 57, 57 jusqu'aux années 60, on a connu un accompagnement missionnaire, mais absolument de très grande qualité. Mais voilà, l'accompagnement a eu lieu, un accompagnement positif, individuel, de missionnaires. L'Église n'a pas joué que le rôle désastreux. Ils avaient des hôpitaux. Mes premières dents m'ont été arrachées à Matana par des missionnaires. Et les vaccinations, tout ça. Mais on ne peut pas non plus évoquer le fait que, malgré tout son bienfait, l'Église, comme institution, était accompagnatrice de la domination coloniale.
Le manifeste des Bahutu, rédigé par trois missionnaires belges, dont le défroqué Père Maus de Recha, a été à l'origine de ce qu'on a appelé la révolution sociale au Rwanda. Vous rencontrez Jean-Paul Parois à Kigali, qui vous révèle quelque chose.
Oui, absolument. En préparant cette émission, effectivement, je vous ai parlé de cette anecdote qui est extrêmement éloquente, parce que le président Bagada a pris le pouvoir en novembre 1976, et presque à la fin de l'année, en 1977, je crois, au mois d'août, il a souhaité faire la première visite officielle dans un pays voisin. Et la première destination, c'était évidemment le Rwanda, qui était gouverné par le président Juvénal Habyarimana. Moi, j'étais dans la délégation du président Bagaza. J'étais conseiller en communication du président Bagaza. On fait la queue à la réception de l'hôtel Mille Collines pour nous inscrire et prendre les clés de la chambre. Et puis, au moment où j'étais dans la ligne d'attente, il y a quelqu'un qui passe dans mon dos, qui me tape sur l'épaule et qui me dit « Est-ce que je peux vous voir ? Est-ce que je peux vous parler ?» J'ai dit « Oui, tout de suite. » Et je suis sorti du rang et il m'a dit « Vous ne me connaissez pas, je suis un agent de la sûreté qui accompagne le président Bagaza. Nous sommes venus en avance pour assurer les questions de sécurité comme ça se fait pour tous les chefs d'État. Il n'y a pas une spécificité de ce voyage. » Et il m'a dit « Je vous connais, vous êtes journaliste, ça peut vous intéresser. Monsieur Jean-Paul Arois est dans le même hôtel que vous. » Jean-Paul Arois, le dernier gouverneur du Burundi, du Rwanda au Burundi, le sang n'a fait qu'un tour. Je suis retourné à la réception. J'ai demandé au jeune homme qui nous inscrivait, je lui ai dit, est-ce que pouvez-vous me mettre en contact immédiat avec M. Jean-Paul Arois ? Et puis il a pris son téléphone, tout à fait gentiment, il a appelé et il a dit, voilà, c'est Jean-Paul Arroy, il y a un journaliste secondaire qui souhaiterait vous parler. Et puis Jean-Paul Arroy a dit, oui, dites-lui, montez. Et je suis monté, je crois qu'il était au quatrième étage de l'hôtel Melcoli. Et j'arrive, il m'ouvre, je le salue, et je lui dis que je suis journaliste burundais, que je souhaiterais obtenir le témoignage de quelqu'un qui fait partie de notre histoire. C'est comme ça que je lui ai dit, vous êtes un personnage de notre histoire. Et puis lui a dit, oui, il n'y a pas de souci. Et puis, par contre, son épouse était à côté de lui, a dit, non, Jean-Paul, il ne faut absolument pas accepter. Tu sais bien que les Burundais nous détestent. J'ai déployé des tonnes de diplomatie, de journalisme. Et puis finalement, Jean-Paul Arroy, il a accepté, malgré la réticence de son épouse, l'hostilité déclarée de son épouse. Et puis, je lui ai posé beaucoup de questions sur l'histoire. La façon dont il a gouverné les deux pays, le Rwanda et le Burundi, qu'est-ce qu'il avait comme priorité, qu'est-ce qu'il voulait mettre en avant dans son programme politique. Par exemple, très rapidement, il m'a dit que son obsession, c'était de protéger les collines contre l'érosion. C'était son hobby, c'était quelque chose qui lui tenait beaucoup à cœur. La lutte contre l'érosion avec une tranchée sur toutes les collines. Ça, c'était vraiment la signature de Jean-Paul Arroy.
Athanase, la lune n'a pas que le côté obscur. Vous dites que l'église catholique de votre enfance a le côté éclairé et éclatant de beauté, n'est-ce pas?
Absolument. Et je crois que c'est la vérité pour beaucoup de situations. Nous avons connu une histoire extrêmement tourmentée. Et ça, c'est le côté obscur de la lune. Nous nous sommes massacrés sans aucune retenue et sans considérer que nous avions en face de nous des humains, des bébés, des enfants. Nous ne pouvons pas continuer à ignorer les massacres dont les Hutus, les Tutsis, les Ganois, les Tois ont été victimes à plusieurs étapes de notre histoire tragique. Et donc, le côté éclairé, c'est malgré tout une exigence nouvelle des citoyens burundais qui se rendent compte que l'absurdité de la guerre et de l'extermination aboutit à l'impasse politique, économique et sociale. Et nous avons maintenant au Burundi beaucoup d'hommes politiques, de femmes politiques, qui n'auraient absolument aucune peur de voir accéder au pouvoir à Hutu élu démocratiquement, proprement, et de façon incontestable comme au Sénégal. Et c'est peut-être malheureusement la leçon de ces tragédies innommables qui sont en train de faire naître la lumière dans beaucoup d'esprits burundais, et donc le côté éclairé de la lune. Espérons que la lune qui apparaît va devenir une pleine lune pour que le Burundi renaisse, et propose un avenir merveilleux à la jeunesse, un avenir d'éducation, un avenir d'épanouissement, un avenir de voyage, un avenir de confiance, un avenir d'établissement des Burundais au Rwanda, en Tanzanie, au Kenya et au Congo, partout, et un avenir de scientifiques, de musiciens, de philosophes, de journalistes, de grands talents. Nous devons absolument aller vers la lune qui est claire, des esprits qui éclairent les cœurs et qui nous fait découvrir le côté formidable et flamboyant de la vie, mais une vie vécue ensemble dans la compréhension, dans la solidarité, parce que les citoyens auront découvert la solidarité et l'égalité.
Nous arrivons au terme de cette édition de Dialogue des Religions. Merci à Athanase Karayenga pour sa contribution. Eric Manilakis a été avec vous. Excellente soirée à vous tous et à la prochaine.